Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes jeudi 16 décembre 2021. Vous suivez bien la radio Nzamba Gaté Kakawe. C'est le moment du journal dont voici d'abord les titres. Augustin Matata est mort à l'hôpital après avoir été torturé par des agents du Service national des renseignements. Augustin Matata, membre du parti de l'opposition CNL, avait été enlevé le 16 novembre dernier à Buringa, dans la commune de Gihanga, de la province Bubanza. Le gouvernement a déclaré juste le dixième des détenus qui ont péri dans l'incendie de la prison de Gitega la semaine dernière. C'est la révélation de la Ligue des droits de l'homme ITK qui, elle, rapporte le chiffre de 345 victimes contre les 38 annoncées par le vice-président de la République. Pour la première fois, le gouvernement reconnaît la gravité de la pandémie du Covid-19. La ministre de la Santé a elle-même déclaré que les chiffres des cas positifs augmentent dangereusement dans le pays. Vous suivrez notamment le cas d'une quarantaine de députés testés positifs, causant la paralysie des activités de l'Assemblée nationale. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
C'est l'émoi au sein du parti de l'opposition CNL. Un de ses membres, Augustin Matata, est mort ce mercredi sur son lit d'hôpital après avoir été torturé par des agents du Service national des renseignements. Il avait été enlevé le 16 novembre dernier à Buringa, dans la commune Gihanga de la province Bubanza. Plus de détails avec Jean-Marie Ndavachinze.
Augustin Matata a rendu l'âme ce mercredi, un mois après son enlèvement par les agents du Service national de renseignement burundais, après la communication du porte-parole de la police burundaise qui annonce que les membres du CNR sont déclarés enlevés par les forces de l'ordre alors qu'ils se font enrôler dans le groupe armé dirigé par Aloïse Nzabamema. Pacifique Nininahazwe, président du Forum pour la conscience et le développement Foko de Ansik, avait alerté sur un membre du CNR au librement torturé, mais que le porte-parole de la police n'avait pas mentionné.
Nous avions dénoncé la torture de Matata Augustin. C'était au lendemain d'une déclaration du porte-parole de la police burundaise. Il voulait réfuter toutes ces allégations d'enlèvement. Il a par la même occasion annoncé que d'autres personnes prétendument enlevées au cours du mois de novembre avaient plutôt rejoint le mouvement Robert d'Aloïse Nzabamema. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'abord de présenter nos condoléances à la famille d'Augustin Matata et au parti CNL, mais aussi de demander à la CNDH de préciser davantage sa communication, mais qui sont les deux victimes de torture au sein du Service national de renseignement, qui sont les auteurs de ce crime grave. C'est très important que la CNDH précise, sinon son comportement risque d'être interprété comme une autre forme de complicité. Et ici, c'est aussi l'occasion de dénoncer encore une fois les pratiques qui se généralisent au sein du Service national de renseignement, la torture est devenue comme une façon normale d'interroger les personnes enlevées, tout comme l'enlèvement est devenu comme un mode normal d'arrestation des personnes recherchées par le Service national de renseignement. Ces pratiques doivent cesser et ce sont des crimes qui un jour doivent être punis.
Augustin Matata, depuis son enlèvement, la famille n'a jamais été informée ni de son lieu de détention, ni des infractions qui pesaient sur sa personne. Ils ont cru qu'il serait gardé au cachot du Service national de renseignement quand ils ont vu des gens qui sont venus faire une fouille perquisition à son domicile et rien d'inquiétant n'y a été découvert.
C'est après que des éléments du Service national de renseignement sont venus perquisitionner plutôt la maison de Augustin Matata. Ils ont creusé dans les enceintes de sa résidence à Buringa. Et c'est alors que la famille s'est donné l'idée qu'Augustin Matata était détenu au Service national de renseignement. Mais là aussi, il n'y avait pas de confirmation. La semaine passée, la famille d'Augustin Matata a appris qu'Augustin était hospitalisé à la clinique Prince Louis Gwagasore. La famille s'est rendue à la clinique, mais a trouvé que la chambre d'hôpital était gardée par des policiers qui empêchaient toute visite à Augustin Matata. Il a fallu, par après, l'intervention du président de la CNDH qui, lui, a pu forcer son entrée dans la chambre d'Augustin Matata et se rendre compte de la gravité de l'état dans lequel il se trouvait à la suite de la torture qu'il avait subie au sein du Service national de renseignement. C'est alors que la CNDH a sorti une déclaration dénonçant deux cas de torture au sein du Service national de renseignement, mais la CNDH n'a pas nommé les victimes et n'a pas nommé les auteurs de ce crime. La CNDH a simplement assuré que les auteurs de ce crime allaient être poursuivis par la justice burundaise.
La mort d'Augustin Matata sous torture arrive quelques jours après que le président du parti CNR, Agathon Rwasa, avait dénoncé le harcèlement des membres de son parti avec un répertoire de plus de 200 cas d'emprisonnement arbitraire et une vingtaine de cas d'assassinat ciblés à l'endroit des membres de son parti CNL.
La mort d'Augustin Matata suscite l'indignation dans le parti CNL. Le représentant de ce parti en commune Isale de la province Bujumbura a succombé à la clinique Prince Louis Lwagasore au cours d'une tentative de réanimation. L'un de ses proches, ceux-ci sont également persécutés, comme l'indique ce témoin qui s'est confié à notre rédaction sous couvert d'anonymat. On l'écoute.
Bumva uwawe hale hagwariye mugabo bamara kujya kumuraba bakakwirukako.
C'est très triste d'entendre qu'un proche est gravement malade sans pouvoir accéder à son lit d'hôpital. Ça, je le dis parce que j'ai dit, on a été informé de l'endroit où se trouve notre regretté, là où il était au coma après avoir été torturé. On est arrivé là-bas à 9h le matin. Les 30 minutes que nous avons passées là-bas, on n'a pas pu le voir. Et pendant qu'on était là, les agents du service des renseignements sont venus pour nous pourchasser en se renseignant sur l'objet de notre visite à l'hôpital. Nous sommes vraiment indignés par le refus de voir notre proche alors qu'il était à l'agonie. Cela est autant plus triste qu'on est habitué à entendre le chef de l'État et d'autres membres du gouvernement dire que les droits de l'homme sont respectés au Burundi. C'est très regrettable. Il vient de mourir. Je ne sais pas s'ils y trouvent leur satisfaction. Il faut qu'ils se ressaisissent, sinon je ne vois pas où va le pays. S'ils veulent construire de belles maisons sur le sang des Burundais, ou s'ils veulent conduire de belles voitures après avoir tué des gens, ceci ne peut pas marcher. Tout change ici-bas.
Au moins 345 détenus ont été entièrement calcinés et des centaines grièvement blessés. Elles sont toujours en attente de soins suite à l'incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega la semaine dernière. C'est ce que révèle la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. Un cher Mikoya Guizé, président de cette organisation, demande au gouvernement burundais de publier la liste exhaustive des victimes et d'ouvrir une enquête indépendante sur l'origine et les circonstances de l'incendie. Le point avec Parfait Mudasigana.
Alors que l'incendie avait commencé autour de 4h du matin en date du 26 novembre dernier à la prison centrale de Gitega, les premiers secours ne sont intervenus que vers 5h40, trouvant au moins 345 corps de détenus entièrement calcinés et de centaines de prisonniers gravement blessés, toujours en attente de soins. Cela figure dans le récent rapport de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. À titre indicatif, au bloc 4, qui hébergeait 273 prisonniers, seule une vingtaine a pu échapper. Au lieu de secourir les détenus menacés par les flammes, les policiers se sont contentés de tirer en l'air pour empêcher les escalades des rescapés et les camions-pompiers qui étaient dans la même ville sont venus tardivement, ce qui implique explicitement la responsabilité du gouvernement dans ce lourd bilan. En chair, Nicolas Guizet, président de la Ligue ITK, demande au gouvernement de publier la liste exhaustive des victimes et ouvrir une enquête indépendante sur l'origine et les circonstances de l'incendie.
Dans cette déclaration, nous recommandons au gouvernement d'afficher une liste exhaustive des victimes disparues, d'organiser un enterrement qui respecte la dignité humaine. La responsabilité du gouvernement est là, car à l'ITK, nous avons su que l'intervention des secours est venue un peu tardivement. Et même les policiers qui étaient là ont empêché les prisonniers de faire cette escalade pour échapper à ce feu. Raison pour laquelle la l'ITK recommande au gouvernement d'indemniser les survivants, mais aussi les familles des disparus.
Au moment où le bilan officiel est communiqué par le vice-président du Burundi, Prosper Bazombanza, 38 détenus ont été consumés par le feu, tandis que 69 ont été blessés. La Ligue Iteka émet un doute sur ces affirmations du gouvernement. Les corps calcinés des victimes ayant été emballés dans une vingtaine de bâches ont été enterrés avec précipitation sans la présence de leur famille.
Parfait, Mouda Sigana. Toujours à propos de cet incendie, les inquiétudes sont nombreuses par rapport à la façon dont le gouvernement burundais mène des enquêtes sur son origine. Dans une déclaration sortie ce jeudi, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat Burundi craint que les enquêtes faites par le gouvernement n'aboutissent pas sur la vérité, car cette organisation estime qu'elles n'ont pas commencé là où il fallait. À Kat Burundi déplore le comportement du gouvernement qui s'est empressé d'inhumer les prisonniers qui ont péri dans cet incendie. L'organisation demande au gouvernement de déclarer une journée de deuil national en mémoire des victimes. Écoutez, Maître Jean-Claude Niburumunsi, il est chargé des questions juridiques à Akat Burundi.
L'origine de l'incendie n'a pas été enquêtée, alors qu'il y avait une piste qui pouvait amener les autorités à diligenter une enquête, du moins s'il y avait une volonté. Des sources concordantes dans la prison affirment que le feu a commencé vers 4h du matin dans la chambre 4, bloc communément appelé Kibanda, et qu'une explosion a été entendue. Nous déplorons le fait que les corps des victimes ont été enterrés dans la clandestinité et dans l'absence totale de respect de la dignité qui ont toujours caractérisé le Burundi lors de l'enterrement. Les familles des victimes ont été refusées d'enterrer les leurs et d'accéder au lieu du drame. Akat Burundi déplore également la négligence des autorités pénitentiaires dans la prévention de telles catastrophes. Nous avons appris que la porte principale de la prison est fermée par deux cadenas, dont l'un est détenu par la police qui assure la garde de la prison et l'autre par la direction de la prison, alors que en réalité le personnel administratif ne tient pas la garde de nuit. Même si c'est organisé ainsi, Akat Burundi condamne le comportement affiché par la police au moment de l'incendie pour n'avoir pas ouvert très rapidement la porte principale afin de permettre les détenus de s'enfuir. Il a fallu attendre l'arrivée du détenteur de la clé du cadenas détenu par le service administratif, alors que le feu faisait rage à l'intérieur. Il y avait d'autres moyens de défoncer la porte pour éviter des dégâts énormes. Akat Burundi recommande alors au gouvernement du Burundi d'ouvrir une enquête indépendante pour connaître la vraie cause de l'incendie et les dégâts et réserver une journée de deuil national en mémoire des victimes et permettre aux familles des victimes d'enterrer leurs proches avec dignité. Nous demandons aussi de désengorger les prisons surpeuplées en prévention des catastrophes similaires à celui de la prison de Gitega. Akat Burundi recommande aussi aux organisations de la société civile et les médias de continuer à mener objectivement leur investigation sur l'origine de l'incendie de la prison de Gitega et ses dégâts sur le plan humain et matériel, et saisir en cas de nécessité les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme, susceptible d'amener les autorités burundaises à faire la lumière sur l'incendie meurtrier à la prison de Gitega.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Suite de cette édition avec la pandémie de Covid-19 qui prend des proportions inquiétantes ces derniers jours au Burundi, surtout à mairie Bujumbura, ce sont les propos de la ministre de la Santé, Sylvie Nzeyimana. Elle indique que de nouveaux centres de dépistage ont été créés pour faciliter le dépistage. Elle recommande à la population burundaise de limiter les voyages non essentiels. Écoutons-la.
Nous avons constaté que ces derniers jours, il y a une longue file d'attente devant les sites de dépistage de la maladie. Alors, nous avons vu la nécessité d'augmenter les sites de dépistage pour désengorger les sites existants. Et nous avons vu la nécessité aussi d'augmenter le personnel qui pourra faciliter dans le dépistage de toute personne qui vient pour se faire dépister. Et je citerai entre autres les sites qui vont être ajoutés aux sites déjà existants. C'est notamment le centre de santé d'Ongagara, au centre de santé de Mutakura, au centre de santé Ruwirizi, au centre de santé Kanyosha, au centre de santé Musaga et le lieu de la médecine communautaire à l'hôpital Roi-Khaled. Nous profitons de cette occasion pour rappeler à la population burundaise de continuer le respect des gestes barrières pour se protéger et protéger les autres contre la maladie. Nous encourageons également la population de se faire dépister souvent à chaque fois qu'on a été en contact avec une personne malade ou quand on sent certains des symptômes de la maladie.
La ministre de la Santé ne sait pas si bien dire. Le cas d'une quarantaine de députés testés positifs au Covid-19 lui donne totalement raison et leur absence a eu comme conséquence la paralysie des activités de l'Assemblée nationale depuis ce mercredi et pour cause, le quorum n'a pas été atteint pour la poursuite des travaux qui étaient prévus. On retrouve Jean-Marie Ndabashinze pour ce dossier.
Selon les informations recueillies par la radio Inzamba à l'intérieur de la chambre basse du Parlement, très peu de députés, seulement une cinquantaine, auraient répondu à la session qui était prévue ce mercredi. La raison majeure étant qu'une quarantaine a été testée positive au Covid-19. Les députés ont passé beaucoup de temps à attendre leurs collègues dans l'espoir d'atteindre le quorum pour en fait commencer d'analyser les différents dossiers qui étaient à l'ordre du jour, mais en vain. La situation est restée similaire ce jeudi. Le nombre de députés qui étaient présents n'a pas dépassé une cinquantaine. Il manquait 32 pour atteindre le quorum afin de poursuivre les activités prévues sur l'agenda. À côté de ces députés atteints à la COVID-19, une dizaine d'autres se trouvent en mission de travail à Arusha, en Tanzanie. Nos sources révèlent aussi que le président de l'Assemblée nationale, Gérard Daniel Ndavirabe, aurait été lui aussi testé positif. Depuis son mercredi, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Dr Sabine Nakarutimana, qui préside la session.
Jean-Marie Ndabashinze, merci. Toujours à propos de cette pandémie, les informations détenues par la radio Nzamba Agathe Kakawe révèlent que le président de la CVR, Pierre Claver Ndaïchalié, a lui aussi été testé positif alors qu'il rentrait de la RDC. Il est pour le moment en quarantaine. Et à Makamba, ce jeudi, 4 employés du bureau du ACR ont été testés positifs au coronavirus selon nos sources sur place. Une courte pause et on se retrouve pour la suite de cette édition.
Inzamba.
Les étudiants de l'université du Burundi au campus Buhumuza en province de Cyangugu se lamentent de ce qu'ils qualifient de barbarie qui caractérise leurs camarades, membres de la milice Imbonerakure. Selon eux, les jeunes affiliés au parti au pouvoir s'arrogent le droit de faire des rondes nocturnes au sein du campus, arguant que c'est pour assurer la sécurité. Au cours de ces rondes, ils malmènent les autres étudiants. 7 de ces Imbonerakure ont été surpris et interpellés par la police en pleine nuit suite à une alerte des étudiants. Mais ils n'ont passé que quelques heures au cachot, le responsable du parti CNDD-FDD ayant payé une caution pour leur libération. Vanessa Mouiteka.
L'exemple ressent des exactions de ces Imbonerakure du campus Buhumuza, date du 7 décembre cette année, quand un étudiant a été convoqué à la permanence du CNDD-FDD de Cyangugu. Il s'appelle Isidore Nzeyimana, lui aussi membre du CNDD-FDD. Il devrait s'expliquer sur un contentieux qui lui oppose avec le bibliothécaire du campus Buhumuza. Nos sources dans son campus indiquent qu'Isidore n'a pas eu la chance de s'exprimer. Il a subi une longue et horrible séance de torture jusqu'à ce qu'il éprouve des difficultés pour se déplacer. Après ces arrestations, certains Imbonerakure, y compris les présumés coupables, ont été interrogés, mais le lendemain dans l'incident, tous ont été libérés après des consultations entre différentes autorités provinciales et ont regagné le campus.
Ils ont été malmenés par leurs camarades du camp Buhumuza, membre du parti CNDD-FDD Imbonerakure. Il a été sérieusement battu dans les enceintes de la permanence du parti CNDD-FDD. Il a fallu qu'il soit amené à l'hôpital pour des soins. Il a porté plainte après à la police proche de chez nous. La police a essayé d'interpeller les présumés coupables. Certains ont été retrouvés dans des appartements où ils étaient en train de battre leurs camarades. En voyant la police, ils se sont faufilés dans la foule qui assistait, mais la police a arrêté 7 d'entre eux, dont 2 qui étaient avec ceux qui avaient battu Isidore.
Les étudiants du campus Wumuza se demandent la suite de ce dossier. Ils demandent que la justice soit faite pour les victimes, afin de décourager tout ce qui viendrait pour perturber la cohésion entre les étudiants.
En tant qu'étudiants, nous demandons le respect de nos droits. Nous ne voulons pas les partis politiques dans notre campus parce que même ceux qui nous représentaient sont élus à la permanence des partis CNDD-FDD. Cela fait qu'il y ait des discriminations liées aux partis politiques. Nous demandons également la justice pour les victimes de ces exactions, que les auteurs soient sérieusement punis afin de décourager toute tentative de nuire à la cohésion sociale au campus.
Ces étudiants du campus Wumuza interpellent le rectorat central de l'Université du Burundi et au ministère de l'Éducation générale pour qu'ils s'impliquent autour du calme pour favoriser leur apprentissage. Nous avons essayé de contacter le responsable du campus Wumuza, Émilie Nokuri, pour sa réaction sans succès. Nous n'avons pas également pu joindre le procureur de Tchangozo, Ferdinand Badzikwangana, pour savoir si le dossier est en cours ou s'il a été classé sans suite.
Merci Vanessa Moïteka. Pour terminer, 4 pasteurs, dont le responsable adjoint de l'église Ezebou de la mission de Nyanzalak dans la province de Makamba, ont été arrêtés par la police de Nyanzalak mercredi et jeudi. Des conflits liés au non-respect des mandats prévus par les statuts de cette église sont à l'origine de ces arrestations. Pour le moment, ils sont détenus dans les cachots de la police provinciale à Makamba. C'est avec vous, Benny Axelakana.
2 parmi ces pasteurs ont été arrêtés mercredi après-midi, les 2 autres le matin de ce jeudi. L'opération a été menée par la police de Nyanzalak en collaboration avec le responsable du service de renseignement à Makamba. Selon une source au sein des fidèles de cette église, ces arrestations visent tous ceux qui soutiennent le respect des statuts qui régissent cette église au Burundi. 84 pasteurs, dont le chef de cette église, sur les 111 que compte celle-ci, avaient décidé de suspendre les leaders pour une période de 3 mois en attendant la mise en place des organes conformément au statut. Mesure prise au cours de leur conférence du 18 novembre dernier. Selon certains de ces pasteurs, des conflits qui minent cette église sont liés au non-respect des mandats prévus par les statuts et le non-respect des clauses des réunions de la conférence des pasteurs, qui est l'organe suprême de prise des décisions conformément aux articles 42 et 47 des statuts mis en place par le premier pasteur de cette église, Balamunda Baran. Ce pasteur a contesté les clauses de la réunion des pasteurs, ce qui a provoqué la fermeture de cette église depuis plus de 3 semaines. Les pasteurs qui soutiennent le respect des statuts disent que ce dernier est soutenu par certains administratifs qui sont également des fidèles de cette église de l'unité du Saint-Esprit du Burundi en violation de la loi. Ils expliquent que l'administrateur de la commune Nyanzalak, Golet Ilangunda, a mis en cause ce dimanche la décision prise par la conférence des pasteurs de suspendre les leaders de leur église pour une durée de 3 mois, ce qui a provoqué la suspension de la prière par les fidèles. Les 4 pasteurs ont donc été appréhendés après cette décision contestée de l'administration de Nyanzalak. Les 4 hommes ont été conduits ce jeudi matin au commissariat provincial de police par Merowe Nunzwenimana, responsable du SNR à Makamba. Selon des témoins sur place, ils ont été malmenés en cours de route. La rédaction de la radio Inzamba, Agateka Kawe, n'a pas encore eu la version de Goret Ilahunda, administrateur de la commune Nyanzalake, ni celle du commissaire de police dans cette province pour plus d'éclaircissements sur cette affaire.
Béni Axelakana, c'est par vous que se termine cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba, Agateka Kawe, pour la production de ce journal. À toutes, à tous, merci de nous rester fidèles. Au revoir.